Re bonjour. Pendant que les préparations techniques finissent, et aussi pour préparer nos cœurs, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, tu nous as rappelé ce matin que tu marchais devant nous. Tu nous as rappelé ce matin que tu marchais aussi à nos côtés. Et depuis que nous avons accepté Jésus, depuis qu'il est devenu le centre de nos vies, depuis qu'il nous a pris de là où on était, on peut le vivre, Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours et que ça nécessite des efforts. Mais Seigneur, on veut toujours plus se rapprocher de toi. Et Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin pour que tu puisses nous enseigner. En ton nom. Amen. C'est bon, c'est parti. Les vacances, c'est tout un repos de travail très difficile. Je répète. Les vacances, c'est tout un repos de travail très difficile. C'est une citation que j'ai trouvée. Les périodes de vacances ou de congés sont une bonne occasion pour se reposer, mais aussi pour faire le point à la manière dont nous vivons toute l'année. Le repos toute l'année, n'est-ce pas le rêve de chacun d'entre nous ? Le petit bonhomme dit « Le vrai scandale, c'est de devoir bosser toute la semaine et de bosser toute l'année. » Est-ce que la Bible parle du repos ? Je vous propose ce matin de parler du repos et plus particulièrement du sabbat, qui est le repos que Dieu a créé pour l'homme. Ainsi, nous verrons dans une première partie l'origine et la pratique du sabbat, puis nous essaierons d'en tirer quelques implications pratiques pour notre vie. Et si pratiquer le sabbat au quotidien était le mode de vie voulu par Dieu pour l'homme? Alors, en première partie, pour notre première partie, j'aimerais qu'on prenne un texte pour étudier l'origine et la pratique du sabbat. Et ce texte se situe en Deutéronome, au chapitre 5, un chapitre très connu, le chapitre 5, puisque c'est le chapitre des 10 commandements. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Et je lirai le texte dans la version Louis II. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. La pratique du sabbat, c'est pas quelque chose d'anodin, puisque c'est le 4e commandement. Il fait partie du premier groupe de commandements qui s'adresse à l'identité même de Dieu. Dans les 10 commandements, il y a un premier groupe qui s'adresse à l'identité même de Dieu et un deuxième groupe qui s'adresse aux relations horizontales, à nos relations sociales. Et la pratique du sabbat fait partie de ce premier groupe de commandements. Le sabbat est pour Dieu une question d'honneur. Alors, ne devrions-nous pas le respecter aujourd'hui ? J'ouvre une parenthèse avant de rentrer dans le texte. Dans notre imaginaire, nous avons sûrement des images traditionnelles de dérive du sabbat. Je pense peut-être comme ça à l'ascenseur shabbatique Vous connaissez l'ascenseur shabbatique? L'ascenseur shabbatique, à partir du vendredi soir, s'arrête à tous les étages pour éviter aux juifs d'avoir à appuyer sur le bouton de l'étage et donc de produire du feu quelque part. Il y a aussi le fait d'allumer la télé avant l'heure fatidique du vendredi soir et après ils ne peuvent plus appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Voilà. On a peut-être ces choses-là dans la tête. Mais le sabbat n'a pas été créé pour ça. Et Jésus va d'ailleurs aller à contre-pied des juifs. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la télé, bien sûr, ni l'ascenseur. Mais il y avait d'autres dérives. Et la première de ces dérives, c'est qu'ils s'opposaient jusqu'à faire du bien à l'un de leurs contemporains le jour du sabbat. Et Jésus va donc aller à contre-pied des juifs, car il s'était attaché non au principe, mais à la pratique. Et cela, c'est la définition du légalisme. S'arrêter à la forme de la pratique en oubliant la signification de la pratique. Et cela ne concerne pas que les juifs, mais peut concerner chacun d'entre nous. Par exemple, la place des annonces dans le culte. Je ne dis pas ça parce que... un peu. Mais non. Bref, ce sont des exemples. Le type de recueil pour les chants. Le fait d'avoir du vin ou du jus de raisin pour la scène. On peut vite déraper, soyons attentifs. L'idée n'est donc pas non plus de changer systématiquement pour changer, parce que plein de choses sont faites pour d'excellentes raisons. Mais l'idée, c'est plutôt de s'attacher davantage au sens premier de notre pratique, du pourquoi, plutôt que de s'attacher au comment, qui lui peut évoluer en fonction des situations et des circonstances. Donc l'objectif de parler du sabbat ce matin est de découvrir ou de redécouvrir le principe spirituel qui se trouve derrière le sabbat. Alors revenons-en au texte. Au verset 12, l'Éternel nous exhorte à observer. Dans d'autres versions, il est dit à nous « souviens-toi, garde ». Il y a une notion de faire attention, de prendre garde, de protéger, d'obéir. C'est une action volontaire de pratiquer le sabbat. La première évocation du jour du sabbat dans la Bible, et on va prendre un autre texte brièvement, est dans Genèse 2, et c'est les versets 2 et 3. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Deux remarques sur ce texte. Le jour du sabbat dans ce texte a été traduit par le septième jour. Néanmoins, le mot hébreu, Yom Shabbat, en hébreu ne signifie pas le septième jour, qui se dit lui Yom Hashvi, excusez mon accent hébreu, ancien, mais Yom Shabbat signifie le jour d'abstention, même s'il tombe le septième jour de chaque semaine. Ainsi, nous pouvons traduire le sabbat comme l'abstention d'activité volontaire dans laquelle il n'y a pas forcément de notion de fatigue, comme ça peut être le cas quand on traduit directement par repos. Et ça me réconcilie un petit peu avec ce verset de Genèse, car j'ai toujours eu du mal à considérer Dieu harassé de fatigue, même après avoir passé une semaine à créer le monde. C'est donc plutôt le jour où Dieu s'arrêta de créer, car son œuvre était achevée. Une autre interprétation intéressante est celle du jour où Dieu s'est assis, car tout était achevé. Deuxième remarque sur le texte, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors là, si on n'a pas compris, Dieu est l'auteur, le compositeur et l'interprète de la création, qui est une œuvre achevée, finie, parfaite, car Dieu a dit en Genèse 1 au verset 31 que tout ceci était très bon. Il est demandé donc au peuple de Dieu de sanctifier ce jour, autrement dit, de le réserver pour Dieu. Dans le contexte du peuple juif, le fait de ne pas travailler dans les champs ou de ne pas faire de commerce était unique dans le monde à l'époque de Moïse. C'était une marque de foi, de confiance en Dieu qui le demandait. La signification, c'est « Je choisis de ne pas travailler pour témoigner que ce n'est pas mon ouvrage qui me permettra de vivre, mais Dieu, et que je lui fais confiance pour cela, plutôt que dans mes capacités ou mes efforts. » Le grand rabbin Ernest Weil a écrit « Le Shabbat, c'est son titre, hein, le grand rabbin, c'est pas moi qui le qualifie comme ça. Le Shabbat est le principe fondamental du judaïsme. Observer le Shabbat, cesser tout travail à l'approche de la nuit de vendredi soir, c'est faire publiquement la profession de foi que Dieu a créé l'univers en partant de rien, que son esprit domine la matière, qu'il est le maître de notre force, de travail, de notre vie. » Quand je préparais le message, Aurore me parlait d'une de nos amies missionnaires, certains d'entre vous peut-être la connaissent, Ruth Anne Gorel, qui racontait que dans son enfance, son père est agriculteur aux États-Unis, et dans son enfance, elle avait toujours vu son père ne pas travailler le dimanche. Et à côté des champs de son papa, il y avait les champs du voisin de son papa, qui était aussi agriculteur, qui lui travaillait le dimanche. Et le papa de Ruth Anne avait toujours de meilleures récoltes que son voisin. Le verset 13. « Tu travailleras 6 jours. » Alors un petit rappel, le travail est bon et a été voulu par Dieu en Éden. Néanmoins, comme nous avons parlé ensemble la dernière fois dans le message sur le bonheur, et la peine que l'homme se donne sous le soleil, le travail peut être pénible sous différentes formes. La pression psychologique, le stress du résultat, la précarité, etc., etc. Nous voyons d'ailleurs un petit peu plus loin dans Genèse 3 au verset 19 que cette pénibilité du travail est une des conséquences de l'entrée du péché dans le monde. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Quand on réfléchit dans ce contexte-là, au jour du repos, on peut que souligner encore une fois la bonté de Dieu. Parce que malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu, dans sa bonté, a prévu un jour de repos. Cela est une vérité que l'on voit un peu partout dans la parole de Dieu. Dieu ne s'arrête pas aux situations sans issue de nos vies, même si nous en sommes responsables, mais trouve toujours des moyens pour nous encourager et nous ramener à lui. Dieu ne s'arrête pas aux situations sans issue de nos vies, même si nous en sommes responsables, mais trouve toujours des moyens pour nous encourager et nous ramener à lui. Le jour de repos est important pour le rythme humain, pour pouvoir tenir dans la durée, ménager sa monture, tenir dans le temps. Gandhi a dit « Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. » Il faut apprendre à rester serein au milieu de l'activité et à être vibrant de vie au repos. Ainsi, le respect du sabbat est un outil voulu par Dieu pour être serein dans notre activité car épanoui dans notre repos. Le sabbat permet aussi de favoriser les relations sociales et familiales. Imaginons qu'on travaille toute la semaine, 7 jours sur 7, quand est-ce qu'on voit notre femme, nos enfants, notre famille? Et là, il y a un enseignement pour nous aussi. Dieu souhaite que nous dégagions du temps pour nos familles. Au verset 13, il est dit aussi « Tu feras tout ton ouvrage pendant 6 jours. » Notre ouvrage, c'est vrai, et notre manière, en tant qu'être humain, et peut-être un peu plus en tant qu'homme, je ne sais pas, d'être utile. Mais notre ouvrage doit être délimité dans le temps. Le sabbat permet de remettre le travail à sa place. C'est-à-dire, le sabbat est un moyen de subsister pour se nourrir par les capacités que Dieu nous donne, tout en l'honorant par le fait que nous respectons le sabbat, plutôt que de faire du travail un moyen de s'enrichir par nos propres efforts, tout en se passant de Dieu. Alors le verset 14. Au verset 14, il est parlé, donc, on l'a vu tout à l'heure, du septième jour. Le septième jour est le jour de Dieu. Peut-être que vous le savez, mais le chiffre 7 a une signification. Le chiffre 7 est le chiffre de ce qui est complet, de ce qui est achevé. C'est-à-dire que le sabbat ne fait pas partie, fait partie intégrante de l'activité humaine. On travaille, on se repose et l'ensemble est un ensemble complet et achevé. Le sabbat, le repos n'est pas une option dans le plan de Dieu. On remarque au verset 14, que toute la maison est concernée, la famille, mais aussi les employés, l'étranger qui est chez soi, et le bœuf et l'âne. Vous avez déjà remarqué qu'il était précisé le bœuf et l'âne. Le bœuf, surtout à l'époque, est le symbole de l'outil de production. La force de travail pour labourer, c'est le tracteur. L'âne, c'est le porteur, le transporteur. C'est la monture des marchands depuis l'Antiquité. C'est l'outil du commerce. C'est la voiture de fonction de Guy, l'âne. C'est intéressant de voir que les deux sont concernés. Déjà pour tous les corps de métier, mais aussi, après avoir labouré ou moissonné, on ne pouvait pas expédier sa production aux clients ou à la coopérative de Jérusalem. On voit que Gaston Lagaffe, dans cette illustration, se sert quand même de son bœuf ou de son âne, de son hélicoptère, pour se reposer. Le sabbat est un arrêt volontaire et délibéré de l'ensemble de mes activités, de tout ce qui me permet de vivre mieux, d'exister à mes yeux ou à ceux des autres. C'est une preuve de confiance totale et volontaire en Dieu pour l'avenir. Comme observer une minute de silence en souvenir d'un tel ou de tel événement avant un match est une preuve de respect et d'association avec la personne, respecter le sabbat et s'abstenir de travailler toute une journée est un choix synonyme de s'appuyer sur Dieu pour sa vie. Passons maintenant au verset 15 et à la signification du sabbat pour le peuple juif. Il est dit dans ce texte que Dieu a acquis le repos du peuple juif en le délivrant de l'esclavage. Dieu a voulu le sabbat pour que le peuple juif se souvienne de la délivrance en Égypte. Dieu a délivré le peuple juif des Égyptiens pour qu'ils puissent devenir le peuple de Dieu. L'Égypte symbolise souvent dans l'Écriture aussi la puissance humaine. Israël, à diverses reprises, a préféré se confier dans la puissance guerrière et politique de l'Égypte plutôt qu'en Dieu. Ainsi, l'œuvre de délivrance a une portée aussi sur notre humanité, nos défauts, nos faiblesses. Respecter le sabbat, c'est donc honorer l'œuvre de délivrance de Dieu. Une deuxième signification. Dans un passage parallèle, Exode 20 au verset 11, qui est l'autre texte qui nous relate les 10 commandements, on voit que la justification annoncée au sabbat est l'œuvre créatrice de Dieu. Et comme Dieu a cessé de créer en Genèse, il devient possible de vivre sans peur de l'avenir, car Dieu maîtrise toutes choses. Une troisième signification, le sabbat est le signe de l'alliance du peuple juif et de son Dieu. D'Adam à Moïse, sauf si je me trompe, nous n'avons pas de traces sur la pratique du sabbat. Cela commence après la sortie d'Égypte, lorsque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire non seulement pour les patriarches, mais aussi pour chacun d'entre eux. Une quatrième et avant-dernière signification, c'est bien sûr se reposer du travail et en particulier de celui imposé par les Égyptiens. Et une dernière signification du jour du sabbat, c'est le jour pour adorer et honorer Dieu. Parce qu'en Exode 9, au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le Pharaon et déclare-lui, voici ce qu'ordonne l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. » L'objectif de la délivrance de l'Éternel est pour que nous puissions lui rendre un culte. Alors, si nous ne le vivons pas forcément au niveau de notre calendrier, puissions-nous aussi serrer dans notre cœur qu'il est bon de faire confiance à Dieu pour l'avenir, plus que dans nos ressources ou dans nos compétences, parce que lui maîtrise toutes choses. Il est bon aussi de serrer dans notre cœur et de se rappeler que Dieu est celui qui prend soin de nous, quelle que soit notre situation. Et aussi que l'activité au sens large n'est bonne que si elle est ponctuée de repos pour prendre soin de ce qu'on aime. Au-delà de ces enseignements, nous pouvons retenir que le principe spirituel du sabbat est de se rappeler dans nos têtes et nos cœurs qui est Dieu, c'est-à-dire notre Créateur, notre Sauveur et notre Seigneur, et que cela a des implications pour nos vies. Alors, les implications pour ma vie. Nous sommes invités par Paul à aller encore plus loin en pratiquant le sabbat de manière spirituelle. C'est-à-dire à entrer dans le repos de Dieu et à en faire un mode de vie. Et on voit ça en Hébreux 4, et je lirai les versets 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. On est dans le Nouveau Testament, hein. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Deux points sur cette partie. Premier point, il nous est exhorté à nous efforcer. Efforçons-nous. C'est-à-dire faire tous nos efforts. D'autres versions vont dire « empressons-nous ». Donc des efforts sont à fournir aujourd'hui. Le repos de Dieu n'est pas à vivre après la mort, mais dès à présent. Et le fait de ne pas le respecter est d'ailleurs synonyme de désobéissance. On voit dans le texte qui précède des Hébreux que le peuple est tombé parce que son cœur s'était endurci. Et il était devenu incrédule car son cœur s'était enflé d'orgueil. Dans ma vie personnelle, je m'aperçois aussi que mon incrédulité envers ce que peut faire Dieu et qui est Dieu est liée à mon orgueil. Car plus je crois en moi, moins je crois en Dieu. Plus je crois en moi, moins je crois en Dieu. Et l'inverse est aussi vrai. Quand je réfléchis à ma vie, je me rends compte que je suis souvent orgueilleux. Parce que à chaque fois que je me fais passer en premier, devant ma femme sur ce qu'il reste à manger, par exemple, etc., etc., à chaque fois que j'attends de la reconnaissance et que je ne trouve pas normal de ne pas en avoir, car je le mérite. Je suis orgueilleux aussi à chaque fois que je suis frustré des situations qui ne sont pas comme je le souhaiterais. Et une des plus sournoises, je suis orgueilleux à chaque fois que je me victimise. En fait, à chaque fois que je suis orgueilleux, c'est lorsque je suis centré sur moi uniquement et que mon moi est plus important que le reste. Parce que le problème, c'est que mécaniquement, Dieu est poussé de côté. Et si je n'entre pas dans le repos que Dieu m'a acquis, c'est que je préfère essayer d'en acquérir un par mes propres forces et mes efforts qui vont m'éloigner de Dieu. Alors cela peut paraître bizarre, mais entrer dans le repos de Dieu nécessite donc des efforts pour nous détourner de toutes les choses, toutes les préoccupations qui peuvent nous parasiter. Pour pouvoir entrer pleinement dans le repos de Dieu, c'est impossible par nous-mêmes. Nous avons besoin d'aide pour nous détacher de notre incrédulité, un petit peu comme le père de l'enfant démoniaque a crié à Jésus en Marc 9. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Je trouve que c'est une réaction pleine d'humilité, c'est une petite foi, mais qui se rend compte du fait qu'elle est limitée. Dieu, en réponse à cette requête, que va-t-il faire? Il va délivrer cet enfant, et donc son père, et ainsi les faire entrer dans son repos, quelque part. Deuxième point, entrer dans le repos de Dieu. Le repos instauré par Dieu nous délivre de notre orgueil et de notre incrédulité, car entrer dans le repos de Dieu, c'est d'après le texte, se reposer de ses œuvres. Se reposer de ses œuvres, c'est ne plus compter sur nos œuvres ou notre mérite, mais c'est se reposer sur Dieu. Se reposer de ses œuvres, c'est aussi ne plus s'auto-disqualifier par notre culpabilité, mais c'est se reposer sur Dieu pour notre qualification. Le repos de Dieu a été acquis pour nous, par Jésus-Christ à la croix, et nous justifie et nous pardonne de manière complète et parfaite si nous choisissons de nous appuyer sur lui. Le repos de Dieu a été acquis pour nous, par Jésus-Christ à la croix, et nous justifie et nous pardonne de manière complète et parfaite si nous choisissons de nous appuyer sur lui. Entrer dans le repos de Dieu ou vivre le sabbat, c'est littéralement, d'après Éphésiens 2 au verset 6, s'asseoir avec Christ. Nous avons vu tout à l'heure qu'une des significations du sabbat, c'était le jour où Dieu s'était assis. Éphésiens 2, verset 6, « Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le monde céleste. » Alors pour nous aujourd'hui, que signifie siéger ou être assis? Et pour cela, je vais prendre une définition d'un des livres qui m'a beaucoup marqué. Alors moi, les livres qui me marquent beaucoup, et c'est des petits livres parce que les plus grands, je n'y arrive pas. Mais il y a plein de bons petits livres. Voilà, je le dis pour tous ceux qui ont de la peine à lire, au passage, mais il y a plein d'excellents, très bons petits livres qui font entre 50 et 100 pages. Voilà, il ne faut pas plus, ça va bien. Et cet auteur, c'est Watchman Nee. Dans son livre, j'ai déjà cité je l'ai déjà cité, mais je le répète, son livre « Être assis, marcher, tenir ferme » qui est une étude du chapitre d'Éphésiens 2. Et à la page 13, nous pouvons lire « Au fond, que signifie être assis ?» Lorsque nous marchons ou que nous sommes debout, nous portons sur nos jambes tout le poids de notre corps. Mais quand nous sommes assis, notre poids tout entier, quel qu'il soit, repose sur la chaise ou le canapé où nous sommes assis. Nous nous fatiguons lorsque nous marchons ou que nous restons debout, mais nous nous sentons reposés dès que nous avons été assis quelques instants. En marchant ou en restant debout, nous dépensons beaucoup d'énergie, mais une fois assis, nous nous délassons, parce que ce ne sont plus nos muscles qui nous supportent, mais quelque chose en dehors de nous-mêmes. De même, dans le domaine spirituel, être assis signifie simplement faire reposer tout notre poids, notre fardeau, nous-mêmes, notre avenir, tout sur le Seigneur. Nous lui laissons le soin de porter cette responsabilité et cessons de la porter nous-mêmes. Ainsi, entrer dans le repos de Dieu, être assis, c'est donc se reposer dans l'œuvre achevée et complète de Jésus-Christ pour ma vie. Entrer dans le repos de Dieu, c'est accepter la libération de l'esclavage du péché pour pouvoir vivre une vie nouvelle en lui. Et ça, ça a été vrai à ma conversion, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et qu'importe si je suis tombé hier ou si je tomberai demain. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi vivre sa paix qui dépasse toute intelligence. Entrer dans le repos de Dieu, c'est aussi s'approprier le pardon de Dieu dans tous les domaines de nos vies, surtout ceux qui nous écrasent et nous fatiguent. Entrer dans le repos de Dieu, c'est arrêter de se soucier de notre avenir en laissant Dieu s'en charger pour nous. Pour conclure, dans notre siècle, où tout va si vite, et le repos rime uniquement avec loisir, pratiquer le sabbat en vivant le repos de Dieu dans nos vies est un témoignage vibrant que nous appartenons à Dieu et qu'une autre manière de vivre est possible. Pratiquer le sabbat ou entrer dans le repos de Dieu est donc un mode de vie auquel chaque enfant de Dieu est appelé. Le repos de Dieu, sa paix acquise à la croix pour nous, font partie de ces choses qui nous donnent un avant-goût du ciel et qu'il nous est possible de pratiquer dès à présent. Efforçons-nous personnellement et encourageons-nous les uns les autres à toujours plus et mieux le vivre dans nos vies. Pour finir, j'aimerais détourner une phrase d'un soldat, le duc de Lévy, qui a été soldat au Canada et qui a fini, le pauvre, gouverneur d'Arras. Rien n'assure mieux le repos du cœur que le travail de l'esprit. Rien n'assure mieux le repos du cœur que le travail de l'esprit. Que l'Esprit de Dieu nous renouvelle et nous montre toujours plus la profondeur du repos acquis par son œuvre pour chacun d'entre nous. Amen.